Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Adoration du Saint-Sacrement dimanche, tous les catholiques sont invités à y participer en compagnie du pape, quel que soit leur fuseau horaire et où qu'ils soient, une première dans l'histoire de l'Église. Clôture du mois de Marie, vendredi, place Saint-Pierre, le pape François a récité le rosaire devant une foule de fidèles auxquels il a livré une réflexion sur trois aspects essentiels de Marie. Ouverture d'un méga procès en Sicile de plusieurs mafieux et hommes politiques, l'occasion pour nous de voir si les appels lancés par l'Église ou le pape aux mafieux peut être entendu de ces criminels. Le livre de Dieu que nous présente cette semaine Catherine Aubin est un dictionnaire, celui de l'éthique chrétienne, un ouvrage dont nous parlerons avec le frère dominicain Laurent Lemoine. Et comme tous les samedis, nous entendrons le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavi. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le pape a conclu vendredi soir le mois de Marie par la prière du rosaire. François choisit de le faire place Saint-Pierre devant quelques 40 000 fidèles le jour de la visitation de la Vierge. Il a marqué ainsi une nouvelle fois sa dévotion à la Vierge centrale dans sa foi. D'habitude, le rosaire a lieu dans les jardins du Vatican, mais le pape a donc choisi cette année de le prononcer devant la basilique comme Benoît XVI en 2008. Il a ensuite conclu cet instant de prière par une méditation revenant sur trois aspects essentiels de Marie, son écoute, sa décision et son action. Antonino Gallofaro.
Marie prend la décision de visiter Élisabeth, car c'est l'ange de Dieu qui le lui a dit. Elle n'a pas seulement entendu, mais elle a écouté attentivement. Cette écoute est faite d'attention, d'accueil et de disponibilité envers Dieu. Le pape a invité à faire de même avec Dieu et avec les autres, à regarder les signes mis sur notre chemin. Le pape a aussi invité les fidèles à décider eux-mêmes à ne pas céder à la mode et aux tendances du moment. Il faut avoir le courage d'aller à contre-courant, à l'écoute de Dieu, comme Marie, pendant les noces de Cana, a affirmé le pape.
Anche qui si vede il realismo, l'umanità, la concretezza di Maria.
Dans cette parabole, Marie est réaliste, humaine et attentive aux problèmes de ce couple qui n'a pas assez de vin pour son mariage, dit le pape. Quand elle se rend compte de cela, elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Elle décide de se tourner vers son fils et de lui dire qu'il n'y a plus de vin. Enfin, pour le pape, Marie agit. Elle sait où elle va, car elle est à l'écoute de Dieu. Enfin, pour le pape, Marie agit. Elle sait où elle va, car elle est à l'écoute de Dieu. Dans la prière, Marie n'est pas pressée, mais une fois que tout est clair, qu'elle a compris la volonté de Dieu, elle agit rapidement. François a cité saint Ambroise qui disait « La grâce de l'Esprit Saint ne comprend pas de lenteur ». Pour François, l'action de la Vierge découle de son obéissance à Dieu.
Antonino Gallofaro. Et dimanche, le pape présidera l'adoration silencieuse du Saint-Sacrement sur l'autel de la confession de la basilique Saint-Pierre. Une adoration presque pas comme les autres, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Église, l'adoration sera planétaire et simultanée. Pendant une heure, de 15h à 16h GMT, les catholiques du monde entier et de tous les fuseaux horaires seront en pleine communion spirituelle avec le pape François. Les cathédrales du monde seront reliés avec la Basilique Vaticane en mondovision ou par liaison Internet. L'initiative a reçu une adhésion massive, a souligné Mgr Fisichella, qui présentait l'événement en salle de presse du Saint-Siège mardi dernier. L'adoration s'étend non seulement aux cathédrales, mais aussi aux paroisses, aux congrégations religieuses et aux associations. Des fidèles de toute nation prieront donc ensemble pour l'Église et le monde souffrant, des intentions choisies personnellement par le pape François. Alors, quel est le sens de l'adoration eucharistique? Comment la comprendre? S'agit-il d'une pratique désuète? Est-elle au contraire plus que jamais d'actualité? Pour nous répondre, Nicolas Butet, il est prêtre, modérateur de la Fraternité Eucharistein et auteur d'une trilogie sur l'Eucharistie, aimer et faire connaître l'amour, brûler au soleil de Dieu et l'Eucharistie à l'école des saints.
Rejoint un petit peu ce qu'on appelle le sacrifice de l'Holocauste dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire brûler toute l'offrande pour Dieu seul. Et quelque part, en adorant, on brûle tout notre temps pour Dieu. Quel gaspillage, brûler, gaspiller du temps devant Dieu comme ça, sans rien faire, j'allais dire, que d'être en sa présence. Ça, c'est une manière de voir, mais une manière tellement paradoxale qu'elle dit toute la signification finalement. Donner du temps à Dieu, l'amour donne du temps à l'être aimé. C'est la seule manière d'ailleurs de montrer à une personne qu'on aime, c'est pas d'offrir des cadeaux matériel, c'est d'offrir du temps, d'offrir de sa personne, eh bien c'est une manière de signifier à Dieu l'amour qu'on a pour lui. Et c'est vrai que prendre du temps pour le Seigneur gratuitement comme ça, c'est une manière d'exprimer l'amour. Mais en même temps, c'est profondément actif, parce que dans l'échange, dans la présence, il y a vraiment une sortie de soi, une extase de soi. C'est peut-être une des spécificités de l'adoration eucharistique, de plonger, j'allais dire, dans le cœur de Jésus qui est devant moi, de rentrer en relation avec lui qui est réellement présent, corporellement présent en face de moi. Et donc cette extase du moi, cet exode du moi, est un exercice permanent qui va justement à l'encontre de toute la culture actuelle, qui est très égocentrée, qui est très refermée sur elle-même. C'est cet enfermement sur soi, cette nouvelle trinité moderne, moi, 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 eh bien là on est toi, 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 Jésus. D'un point de vue plus anthropologique, l'adoration est vraiment un lieu de guérison de la personnalité, parce qu'elle nous évite ce repliement sur nous-mêmes pour nous mettre en extase de soi. Et ça, c'est un sacré travail que de mettre Dieu à la première place dans notre vie et de sortir de soi pour aimer jusqu'à cette folie de l'amour qui doit ensuite, bien sûr, se concrétiser dans la vie de tous les jours avec nos frères et sœurs en humanité.
Alors les catholiques, surtout les jeunes catholiques, ont renoué depuis quelques temps avec cette forme de prière. Pourquoi, selon vous, à quoi est-ce que cela est dû? Est-ce que ça correspond à un besoin véritable, à une urgence spirituelle?
Ils ont renoué, et je dirais renouvelé complètement. Parce que si l'on pense à renouer, on dirait qu'on a retrouvé une pratique ancienne. Or, il semble qu'il y a une terrible actualité de l'adoration eucharistique. Quand on demandait à Mère Teresa comment faire pour changer les paroisses et changer le monde, elle disait « Exposez Jésus tous les jours sur vos autels et vous allez voir que tout va changer ». Donc il y a une bouleversante actualité de l'adoration eucharistique. Ce n'est pas une pratique ancienne qu'on remet au goût du jour. C'est une actualité prophétique que l'on signifie par l'adoration eucharistique.
Le père Nicolas Buté, il était joint par Manuela à Figi. On connaît l'attention particulière que le pape François porte aux enfants et aux personnes handicapées. Nouvel exemple avec la rencontre qui a eu lieu vendredi soir dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe entre le pape et un groupe de 22 enfants gravement malades hospitalisés dans le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli à Rome. Ces enfants qui ont effectué un pèlerinage à Lourdes avaient envoyé au pape des dessins de la grotte et une lettre dans laquelle ils l'invitaient à prier avec eux. Un vœu qui fut donc réalisé. Une des enfants a exprimé au nom de tous la joie de tous les enfants, de leurs parents, de leurs accompagnateurs, de pouvoir voir le pape en vrai et pas comme à la télé. Elle l'assurait que tous continueront de prier pour lui et lui a demandé aussi de prier pour tous les enfants malades. Le pape a ensuite parlé directement avec les enfants, leur expliquant simplement que Jésus aime les enfants et qu'il est présent à leur côté. Un rendez-vous donc chargé d'émotions pour les uns et pour les autres. Le pape a retrouvé la chapelle ce samedi matin pour la messe matinale. Dans son homélie, il a déclaré que l'Église n'est pas une organisation culturelle, mais qu'elle est la famille de Jésus. Il a rappelé que les chrétiens ne devaient pas avoir honte de vivre avec le scandale de la croix et les a exhortés à ne pas se laisser prendre par l'esprit du monde, un esprit qui ne tolère pas le mystère de l'incarnation du Verbe. Ceux qui nient que le Verbe s'est fait chair sont l'antéchrist, a-t-il notamment déclaré. La mafia est une réalité en Italie et plus encore en Sicile, où se tient depuis vendredi un procès mêlant sur le banc des accusés des chefs mafieux et des politiques italiens de premier plan. À Palerme, les juges doivent déterminer si des politiciens ont passé un accord avec la mafia sicilienne dans les années 90, une période violente marquée par les assassinats de figures emblématiques de la lutte anti-mafia, comme les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, ou encore le père sicilien Giuseppe Puglisi, béatifié le week-end dernier dans la capitale sicilienne. À cette occasion, le pape François avait appelé les mafieux à se convertir. Antonino Gallofaro a demandé à Salvatore Ruppo, historien et professeur à l'université de Palerme, si ces mafieux prêtent vraiment attention à la figure du pape et à l'Église.
Ces dernières années, la hiérarchie catholique a fait un bon travail. Et ça contraste avec le mauvais travail fait par le passé. Je le dis parce que la mafia fait partie de ce monde catholique populaire, traditionnaliste, et qui d'une certaine manière s'en remet à l'enseignement de l'Église. Donc avoir expliqué à ces gens que le fait qu'ils se réclament de cet enseignement de l'Église, c'est infondé. Cela est très utile et devrait bousculer un peu les consciences des catholiques. Parce que la lutte contre la mafia ne se déroule pas seulement dans les palais de justice ou dans l'action politique, mais aussi dans les consciences. C'est un travail compliqué qui ne peut être délégué à personne, toutes les forces qui se sont impliquées dans le bien-être de notre pays sont nécessaires.
Salvatore Lupo, historien et professeur à l'Université de Palerme, joint au téléphone par Antonino Gallofaro. On reste en Italie, où a lieu depuis ce samedi l'ostension permanente du corps de Padre Pio. À cette occasion, le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, a présidé une messe en l'église de San Pio da Pietrelcina de San Giovanni Rotondo. Le corps de Padre Pio, saint de l'église, sera donc exposé dans son urne de verre aux fidèles dans l'église inférieure. De nombreux coups de fil, de mails, de lettres sont en effet parvenus au sanctuaire pour demander une nouvelle ostension. Une première avait eu lieu du 24 avril au 24 septembre 2009. Les frères Capucins et l'archevêque ont considéré qu'une telle démarche était opportune en cette année de la foi pour notamment réveiller dans les cœurs des nombreux pèlerins la foi, les vertus dont Padre Pio a été et continue d'être le témoin exemplaire par ses écrits, sa spiritualité et surtout la cohérence de sa vie. Retrouvons maintenant le livre Pour Dieu. Cette semaine, nous parlons avec Catherine Aubin d'un dictionnaire, le dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne, qui nous est présenté par le frère dominicain Laurent Lemoine. Cet ouvrage est tout d'abord une entreprise culturelle, chrétienne et œcuménique. Il expose la richesse intellectuelle de la réflexion morale dans toute sa pluralité religieuse. Il propose une histoire de la réflexion éthique chrétienne dont il souhaite dresser un état des lieux dépassionné et le plus objectif possible en dialogue avec la société. Il est édité aux éditions du CERF.
Frère Laurent Lemoine, un dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique chrétienne ?
C'est un défi de parler d'éthique chrétienne. Peut-être vaudrait-il mieux parler des éthiques chrétiennes, mais nous avons fait le pari que, entre catholiques, protestants et orthodoxes, nous pouvions tout de même parler, essayer de parler d'éthique chrétienne, c'est-à-dire des sujets sur lesquels nous sommes d'accord ou suffisamment d'accord en termes d'éthique, sans ignorer les sujets sur lesquels nous sommes encore partiellement en désaccord. À ce jour, en 2013, nous avons suffisamment d'accords communs pour proposer un dictionnaire d'éthique chrétienne, au sens où Jean-Paul II en parlait, c'est-à-dire d'abord regarder ce qui nous rassemble plutôt que de regarder ce qui nous divise encore.
Le projet de ce dictionnaire, quel est-il ?
Le projet est fondamentalement de jeter des ponts, et non pas de construire des murs, donc jeter des ponts avec la culture contemporaine. Et il y a suffisamment de murs, on l'a vu actuellement dans les débats francophones ou même français, on le voit ailleurs sur la planète, entre Israël et la Palestine, il y a des murs partout. Si l'éthique peut essayer d'avoir un vrai rôle, surtout quand c'est une éthique qui s'appuie sur une transcendance, un sens du partage et de la rencontre de l'autre, comme c'est le cas pour la foi chrétienne. Ce rôle-là, c'est bien de jeter des ponts, d'aller vers l'autre, sans vouloir ramener l'autre à ce qu'on sait de lui ou à ce qu'on veut qu'il soit, mais en l'accueillant vraiment dans une conversation, un dialogue, c'est ça le sens de l'éthique. Comme Paul VI l'avait défini, l'Église est d'abord dialogue et conversation.
Et donc, il n'y avait rien avant votre dictionnaire. Comment est né ce projet de ce dictionnaire ?
Il y avait plein de choses, mais qui ne ressemblaient pas à ce dictionnaire. Il y avait des dictionnaires intra-catholiques, il y avait des dictionnaires de philosophie morale en France. Mais donc, ce sont des projets différents, et nous avons constaté après réflexion qu'un dictionnaire adoptant une méthode écuménique dans l'esprit du dernier concile, effectivement, ce projet-là n'existait pas, et un projet en débat avec la culture contemporaine, c'est-à-dire pas un projet communautariste de plus, mais un projet vraiment qui essaye de proposer la tradition et le patrimoine chrétien de manière vivante, comme vraiment une tradition vivante, et une tradition vivante et qui a une identité, ne craint jamais de rencontrer autrui, puisque la vérité ne nuit pas à la vérité.
La première entrée, l'accompagnement spirituel, la dernière entrée, vulnérabilité. Entre les deux, tout un programme.
Oui, c'est d'ailleurs bien que vous le présentiez ainsi. Nous avons fait le choix de ne pas réduire ce dictionnaire d'éthique à la morale, mais de ne pas non plus le réduire à l'éthique, c'est-à-dire de ressourcer l'éthique à, heureusement, à ce qui la dépasse et peut-être même ce qui la fonde, c'est-à-dire pour l'éthique chrétienne, s'appuyer par exemple sur la dogmatique. Et ce n'est pas un gros mot de dire dogmatique, c'est s'appuyer sur le don de Dieu tout simplement. Donc effectivement, ça peut se poser en termes d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire d'aider l'autre à discerner, à faire des choix humains, des choix donc moraux, ce qui pour saint Thomas est la même chose. Et puis, évidemment, puisque la dernière entrée est vulnérabilité, toute décision, tout discernement se pose en contexte de vulnérabilité, de fragilité, puisque du point de vue essentiel, la qualité de l'être humain et sa beauté aussi, et son défi, c'est d'assumer et de porter sa vulnérabilité.
Des auteurs catholiques, protestants,
oui.
Des auteurs orthodoxes,
oui.
Des auteurs qui ne croient pas.
Oui, parce que nous avons fait le choix à la fois d'un projet œcuménique et d'un projet auquel nous avons voulu associer des auteurs non chrétiens qui acceptaient le pari de travailler dans un dictionnaire d'éthique chrétienne et travailler ensemble à jeter des ponts pour que l'éthique chrétienne ne se dérobe pas à sa tâche qui est celle d'aider, de promouvoir l'humanité de l'homme. Ce qu'il y a d'important, c'est une morale ou une éthique de promotion de l'humanité de l'homme, qui est une tâche infinie qui se dérobe sans arrêt.
Le frère Laurent Lemoine, interrogé par Catherine Aubin, nous présentait le dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne. Et avant de se quitter, retrouvons le père Pascal Montavide pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin.
Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire la solennité du corps et du sang du Christ. Pour nous aider à méditer sur ce mystère, l'évangile de ce jour raconte la multiplication des pains faite par Jésus à Bethsaïde. Plusieurs éléments de ce récit nous permettent de mieux comprendre et mieux vivre l'Eucharistie où nous recevons le corps et le sang du Christ. Tout d'abord, il est dit que Jésus parlait du règne de Dieu à la foule. Avant la multiplication des pains vient donc l'enseignement de Jésus. De la même manière, la liturgie de la parole précède la prière eucharistique au cours de la messe. Il est important de se mettre à l'écoute des paroles de Jésus avant de recevoir le corps du Christ. Il est aussi précisé que la foule se situe dans un endroit désert et que le jour baisse. Elle a faim. Voilà une belle description de l'humanité en attente de la nourriture spirituelle que Dieu seul peut lui donner. Notre cœur est parfois traversé par des déserts. Nous nous sentons seuls, incapables de nous donner, de pardonner, d'aimer. Cette épreuve se manifeste aussi par une absence de lumière. Nous perdons l'espérance car nous ne voyons plus au loin la terre promise. Le Seigneur permet parfois que nous traversions ces souffrances. Elles permettent de creuser en nous le désir de le recevoir. Le désert est bien sûr le lieu de la purification, mais il est aussi le lieu où Dieu parle. En nous dépouillant de nos assurances, de notre orgueil, le Seigneur se prépare une place, un cœur humble qui l'attend. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point mépris, dit le psalmiste. L'Eucharistie débute par cette prière du Kyrie Eleison, où nous demandons au Seigneur d'avoir pitié du pécheur que nous sommes. Ensuite, les apôtres reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas nourrir la foule. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Il est important pour les prêtres de se rappeler que, par eux-mêmes, ils sont absolument incapables de nourrir le peuple qui leur est confié, de l'enseigner, de le guérir. C'est uniquement en obéissant à Dieu qu'ils peuvent être canaux de la grâce. Le Seigneur a choisi de se donner à travers les médiateurs que sont les prêtres. Ceux-ci sont appelés à sanctifier le pain que les fidèles apportent, tout comme Jésus a béni les 5 pains et les 2 poissons. Enfin, Jésus ordonne de les faire asseoir par groupe de 50. Voici une belle image de nos paroisses qui, réunies, forment l'Église universelle. Jésus peut alors lever les yeux au ciel, bénir et rompre les pains, afin que les disciples les distribuent à tout le monde. L'évangile se conclut ainsi. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme, et il le comble en abondance. En ce jour du Saint-Sacrement, vivons avec une particulière intensité l'Eucharistie. Reconnaissons-nous humblement pécheurs devant Dieu, et soyons attentifs à sa parole. Et si nous doutons encore de la présence réelle de Jésus dans l'hostie, demandons la grâce au Seigneur d'ouvrir l'intelligence de notre cœur.
C'est C'était le commentaire de l'évangile de ce dimanche par le père Pascal Montavi. Voilà, c'est la fin de ce magazine. En attendant de se revoir, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va ou sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain, même lieu, même heure.